Le café littéraire interview de Robert Charles Wilson. J'ai demandé à Sylvien Demierre de nous lire un texte du dernier ouvrage qui vient de paraître en France et qui va nous introduire dans l'univers de Robert Charles Wilson. J'ai également demandé du renfort parce que pour interviewer un auteur de la dimension de Robert Charles Wilson, il faut qu'on soit au moins à deux critiques. Et j'ai demandé à Jean-Claude Dantreuillen de m'aider dans cette entreprise. Voilà, c'est un auteur que nous admirons beaucoup tous les deux. Et on va essayer de vous faire partager notre passion pour cet auteur.
Le soir et le matin, elle adorait New York. Elle ne dormait parfois que 5 heures d'affilée, parfois moins, pour profiter davantage de la matinée et de la nuit. Le soir, surtout quand elle sortait avec Lawrence et la bande, elle se laissait simplement emporter dans le feu de leur conversation et parlait de déségrégation ou de course aux armements dans un café-concert, se laissait emporter aussi par la musique des légions de chanteurs folk venus de tout le pays, se déversant désormais à l'angle de Bleecker et McDougall. Dans les salles au sol recouvert de sciure et rempli de ses amis poètes, folk ou beatnik, de fervents trotskistes, de drogués, de musiciens de jazz et de fugitifs de 18 ans échappés des banlieues miteuses du Midwest, tous ces courants transversaux convergeaient avec tant d'intensité que, certaines nuits, Joyce croyait le ciel noir d'ébène susceptible de s'ouvrir en un ravissement des déshérités qui leur permettrait à tous de monter physiquement au ciel. Des nuits de ce genre n'avaient rien eu d'inhabituel durant l'hiver et le printemps, si bien qu'elle attendait avec impatience l'été où le rythme allait doubler et doubler encore. Peut-être Lawrence publierait-il sa poésie ou bien elle-même trouverait-elle un public pour sa musique. Il serait alors dans l'œil de ce vortex lumineux. Mais elle aimait aussi les matins, celui-là par exemple. Elle aimait sentir en se réveillant la ville sortir du sommeil tout autour d'elle. Depuis son arrivée à New York, le rythme de la ville était devenu un thème stabilisateur. Elle avait appris à distinguer le bruit de la circulation du matin de celui de l'après-midi, tous deux différents du bruit de la circulation nocturne avec sa sirène solitaire. La circulation du matin éveillait Joyce avec des promesses. Elle ne détestait pas la ville avant midi, quand celle-ci devenait vulgaire, bruyante, turbulente, ordinaire et d'une étouffante monotonie. À Macy's, durant ses pauses déjeuner, elle avait écrit des chansons sur New York la nuit et le matin, petit charme contre la grossièreté de la mi-journée. Tom dormait toujours sur le canapé. Joyce en fut un peu surprise. Elle l'avait imaginé disparaissant au matin, comme un rêve, comme de la fumée. Il était toutefois là, bien réel, dans ses vêtements froissés. Elle entendit vibrer et gémir la plomberie de la salle de bain, puis il entra dans la cuisine, le visage tout juste lavé, les yeux aussi écarquillés et abasourdis que la veille. « New York, » dit-il, 1962. Félicitations, stupéfiant. Vous n'êtes vraiment pas d'ici ? On peut dire ça. Il avait un grand sourire un peu idiot. Vous vous sentez mieux ce matin ? Mieux, oui, un peu étourdi en fait. Ah oui ? Bon, évitez d'être trop étourdi. Vous avez sans doute besoin d'un petit déjeuner. Sans doute. Il ajouta, je suis toujours fauché. Eh bien, je peux vous offrir un petit déjeuner. Mais j'ai rendez-vous avec Lawrence à midi. Il n'apprécierait peut-être pas de savoir que vous avez dormi là. Tom accepta d'un hochement de tête sans demander qui était Lawrence. Très courtois, se dit Joyce. Elle verrouilla la porte de l'appartement et ils descendirent dans la rue. Le ciel était dégagé, l'atmosphère presque tiède. Ce qui valait mieux, Tom n'ayant pas de manteau à enfiler par-dessus sa chemise de coton. Joyce se mit à recommander un magasin de vêtements d'occasion qu'elle connaissait, pour quand vous aurez un peu de liquide. Mais il ne parut pas s'en préoccuper. Je m'inquiéterai pour l'argent plus tard. Saine attitude. Il faut d'abord que je voie comment rentrer chez moi. Il ne vous faut pas d'argent pour ça ? Ce n'est pas l'argent qui pose problème. Alors c'est quoi ? Les lois de la physique, les souris mécaniques. Joyce sourit malgré elle. Il continua. Ah, je ne peux pas vous expliquer. Peut-être que je pourrai un jour, si je trouve le chemin pour revenir ici. Elle croisa son regard. Sans plaisanter ?
Sans plaisanter.
Elle commanda un petit déjeuner pour deux dans un bistrot. Cela taillait un peu dans son budget, mais à quoi servait l'argent ? Tom tint à acheter un journal qu'il regarda d'un air émerveillé, tournant les pages avec révérence. Il le lisait moins qu'il ne l'examinait, d'après Joyce. Pour sa part, elle n'avait pas pris de journaux depuis le lancement de John Glenn en février. « Vous êtes juste vendeur de voitures ou vous êtes aussi poète ?»«
On ne m'avait encore jamais accusé de poésie. »«
C'est parce que vous avez parlé de souris mécaniques. »« En plus, eh bien, on est au village. » Les poètes sont comme des cafards dans le coin.
Mon Dieu, on y est ? C'est vrai ? À Greenwich Village ?
Il leva les yeux du journal. Vous jouez de la musique ?
Ça m'arrive, admit Joyce.
J'ai remarqué votre guitare dans l'appartement. Une Honor à 12 cordes.
Pas trop vilaine.
Vous jouez ?
Un peu. J'ai appris à la fac. Mais ça fait des années.
On devrait jouer ensemble un jour. Si vous revenez.
Voilà. Le texte qu'on a choisi parce que l'univers de Charles Robert Wilson dans la science-fiction actuelle présente une singulière particularité, c'est qu'on s'y intéresse beaucoup aux êtres humains et un petit peu moins à la quincaillerie technologique. Il y en a, mais ce qui prime avant tout, c'est la manière dont les êtres humains réagissent. Alors vous avez, je pense, tous compris que le personnage de Tom est un voyageur temporel. Robert Charles Wilson a écrit un certain nombre de romans dans lesquels, à chaque fois, il prend un thème de la science-fiction, thème classique, le voyage spatial, la colonisation d'une planète, le voyage dans le temps, la catastrophe, et à chaque fois, il en donne une version qui est éminemment personnelle. Alors, ce qu'on va essayer de faire, si Robert Charles Wilson est d'accord, c'est d'essayer de retracer un parcours d'écrivain et de voir quels sont les étapes. Alors d'abord, vous êtes né aux États-Unis et puis vous êtes parti au Canada. Est-ce que le fait de vivre au Canada joue un rôle dans votre œuvre ?
Well, the short answer is yes.
La réponse la plus courte, c'est oui.
It's difficult to say exactly how, but you know, coming to Canada, I was 9 years old.
C'est difficile de dire comment. Quand je suis venu au Canada, j'avais 9 ans.
And as an American, as someone born in the U.S., I did experience it as a sort of parallel world.
Et en tant qu'Américain né aux États-Unis, j'ai un peu vécu ça comme l'entrée dans un monde parallèle.
Everything seemed so familiar, but it wasn't quite.
Tout me paraissait tellement familier, mais ça ne l'était pas vraiment, en fait.
I remember particularly the one thing that struck me at that age was the civic buildings, the government buildings in Canada. In the U.S., the architectural style is, I think it's called federal.
Par exemple, une des choses qui m'ont frappé quand j'étais là-bas, ce sont les immeubles du gouvernement. Aux États-Unis, l'architecture, je crois qu'on la qualifie de fédérale.
Greek columns, porticos, white stone.
Des colonnes grecques, des portiques, de la pierre blanche.
In Canada, I suppose because of the British tradition, the public buildings were all in a kind of a Gothic style.
Alors qu'au Canada, je pense probablement à cause de la tradition anglaise, ils sont tous en style gothique.
And it seemed to me bewildering because it looked like all the government functions were being performed in churches.
Et j'ai trouvé ça extrêmement stupéfiant et un peu ahurissant. J'avais l'impression qu'en fait le gouvernement travaillait dans des églises.
So yes, in a trivial sense, that did affect me. But I was already a reader of science fiction as much as you can be at the age of 9 or 10 when I came to Canada.
Donc, d'une manière un peu triviale, la réponse est oui, mais aussi j'étais déjà un lecteur de science-fiction très avide à cet âge-là, autant qu'on peut l'être en tout cas à cet âge.
Justement, comment on passe de lecteur de science-fiction à l'envie d'écrire?
Well, I formed an ambition to write at a very, very early age, I have to say. And because of that, it's difficult to explain. But I was writing stories as soon as I learned to read, and I was self-taught as a reader. I could read before I entered school.
J'avais l'ambition d'écrire très très tôt. C'est un petit peu difficile à expliquer, mais finalement, j'ai commencé à écrire des histoires. Dès que j'ai commencé à pouvoir les lire, me suis limite un peu appris à lire tout seul.
So when you form an ambition at that age, it's always difficult to actually find, to identify the sources of it. It seems mysterious.
Donc en fait, quand on a des ambitions aussitôt, aussi précoces, c'est un petit peu difficile d'identifier exactement quelle en est la cause.
In fact, my mother very carefully preserved all the stories I wrote when I was in grade 1 and grade 2.
D'ailleurs, ma mère a préservé très soigneusement toutes les petites nouvelles que j'ai écrites quand j'étais à l'école, donc en 6e et 5e.
If Noel would like to publish them, maybe we can negotiate a deal.
Et si Anita a envie de les publier, peut-être qu'on peut négocier quelque chose.
Alors justement, vous disiez que vous étiez un lecteur de science-fiction. Est-ce que les petits textes que vous avez écrits étaient des textes de science-fiction ou vous aviez d'autres sources d'inspiration?
No, I was obsessed from a very early age with science-fiction. Those primitive stories were mostly the plots were very simple. People would travel to another planet, they would land, something frightening would happen, and they would leave again.
Non, j'ai été obsédé depuis un âge très précoce par la science-fiction. Ces histoires primitives avaient des intrigues qui étaient extrêmement simples. En général, il s'agissait de gens qui voyageaient vers une nouvelle planète, qui atterrissaient dessus, il leur arrivait un truc effrayant, et puis ils redécollaient.
I suppose, you know, if I had to come up with some kind of psychological analysis, I guess it has to do with a feeling of otherness, of difference. I did feel a little different from other people my age at that time. But again, it's not for me to say. I probably understand this less well than the people who know me better.
Si je devais vraiment m'efforcer de faire une analyse psychologique de ça, je dirais que ça a probablement rapport avec les thèmes de l'altérité, de la différence. C'est vrai que je me sentais un petit peu différent des autres personnes de mon âge, mais je pense que ça revient pas à moi de le dire et plus aux gens qui me connaissent bien.
Alors, il y a un passage au professionnel. Il y a une première nouvelle qui est publiée dans une revue professionnelle, et puis il y a un trou de 10 ans entre cette première nouvelle et puis la suivante. Alors qu'est-ce qui se passe pour la première et ensuite pourquoi ce trou et qu'est-ce que vous faites pendant 10 ans?
Well, I wish I had a good story. I wish I could say I was in prison for 10 years.
J'aimerais avoir une bonne histoire à vous raconter, dire par exemple que j'étais en prison pendant 10 ans.
But in fact, I sold my first story when I was 19 years old, and it was and I had been submitting others. And they were what I think of as imitation science fiction stories.
En fait, j'ai vendu ma première nouvelle de science-fiction, j'avais 19 ans, et j'ai continué à en soumettre d'autres, mais je pense aujourd'hui que on pourrait les qualifier d'histoires de science-fiction d'imitation.
In the sense that they reflected what I had been reading. They were imitation stories in the sense I was trying to write. I was trying to write the kind of stories that I liked, and I didn't have a particularly individual way of writing them.
En fait, je pense que ça reflétait beaucoup ce que je lisais quand je dis que c'était des histoires d'imitation. C'est que j'essayais d'écrire ce que j'avais envie d'écrire, mais ça reflétait également beaucoup ce que je lisais, et je crois que je n'avais pas une façon très originale d'écrire ce que je disais.
And I think I had to live a little bit as an adult before I could write stories that had any real originality to them.
Et je pense qu'il m'a fallu vivre un petit peu en tant qu'adulte, une vie adulte, pour pouvoir être capable d'écrire des histoires qui aient un tant soit peu d'originalité en elles.
It was when I sold that first story, I was 19, my father died, my mother moved back to California, and I was living on my own for the first time, working clerical jobs mostly in the city of Toronto, and getting into the kind of trouble people get into in that sort of situation.
Donc j'ai vendu cette première nouvelle à l'âge de 19 ans. Mon père est mort, ma mère est retournée en Californie et donc j'ai vécu tout seul. J'ai fait des petits boulots, principalement d'employés de boutique. Et je me suis fourré dans tout un tas de problèmes, les problèmes qu'on peut imaginer quand on vit seul à cet âge.
It was at that age too that I found a circle of friends among other science fiction readers in the city of Toronto and of my age. And we had, you know, it was a group of people who were equally enthusiastic about science fiction and science and philosophy, and we were all marginally employed, and we would walk around the city at all hours of the night, having an endless conversation with no beginning and no end. So it was not a productive time for me in terms of writing, but it was an extremely useful time in terms of learning to write and learning what to write about and what interests people.
Donc en fait, mais là-bas, j'ai trouvé donc dans la ville de Toronto un cercle d'amis qui étaient des lecteurs de science-fiction qui à peu près mon âge, un groupe de gens très enthousiastes. On discutait de science-fiction, de science, de philosophie. On avait tous des plus ou moins des petits boulots pas forcément très stables, et on se promenait dans la ville à toute heure du jour et de la nuit en ayant des conversations sans fin, sans début, ni fin, sans queue ni tête, sur tous ces sujets-là. Alors donc c'était pas forcément une période très productive au niveau de l'écriture, mais ça l'était au niveau du fait d'apprendre à écrire, d'essayer de découvrir ce que les gens aimaient lire et ce qui pouvait les intéresser.
Est-ce que c'est cette période-là aussi qui vous a permis de comprendre mieux les gens et de mieux les portraiturer dans vos romans ?
Well, yeah, of course it did. It was also, you know, I had my first real relationships with women during that time. I had to deal with. Well, and in terms of the work I did, I may have mentioned this before, so I apologize if I'm boring anyone, but I had many jobs during that time, but the one I held for the longest period of time was at a place called the Ontario Human Rights Commission.
Bien sûr, c'est aussi dans cette période où j'ai eu mes premières relations avec des femmes. À propos du travail que j'avais, je l'ai peut-être déjà mentionné, donc je m'excuse si par avance si je vous ennuie. J'ai occupé beaucoup de postes, j'ai eu pas mal de métiers différents, mais le poste que j'occupais le plus longtemps, en fait, c'était à la commission des droits de l'homme de l'Ontario.
What would happen is that people would come into the commission with complaints about discrimination in the workplace on the basis of ethnicity, national origin, sexual orientation, and so forth.
Et donc le travail qu'on avait à la commission, c'est qu'on avait régulièrement des gens qui venaient porter plainte pour cause de discrimination sur le lieu de travail, à cause de leur origine ethnique, à cause de leur orientation sexuelle, etc.
They would be interviewed by a human rights officer. The interview would be recorded, and my job was to transcribe those sessions.
Donc ils venaient, ils avaient un entretien avec quelqu'un donc de la commission. Ces entretiens étaient enregistrés, et moi mon travail consistait à transcrire à l'écrit ces entretiens.
So I learned a lot of useful things about, you know, simple things like how dialogue looks on a page, the difference between the spoken word and the written word.
Donc j'ai appris tout un tas de choses utiles pendant cette période, des choses simples, par exemple comment un dialogue rend à l'écrit, à quoi il ressemble sur une page, faire la différence entre le mot parlé et le mot écrit.
But a lot of the stories that people came to the commission with were either touching or heartbreaking or occasionally funny. So it was also an education in human nature and human experience.
Mais aussi les histoires que les gens venaient raconter étaient souvent touchantes ou alors elles vous brisaient le cœur, pouvaient même être drôles. Donc en fait, finalement, c'était un petit peu pour moi une forme d'éducation concernant la nature humaine.
I'll give one brief example. I had to type up a report that one of our officers had prepared about ethnic conflicts in an apartment building in Toronto.
Donc pour vous donner juste une brève anecdote, j'ai dû taper un rapport qu'un employé avait préparé à propos d'une dispute ethnique dans un immeuble.
It was a conflict between Jamaican youth and Canadian youth in this building.
C'était un conflit qui opposait donc des jeunes originaires de Jamaïque et du Canada.
And the officer who prepared the report came to the conclusion that the basis of the conflict was that the Jamaican youth were interested in sex and the Canadian youth were interested in hockey.
Et la conclusion à laquelle l'employé est arrivé, c'est qu'en fait la fondation de ce conflit était la suivante: les Jamaïcains s'intéressaient au sexe et les Canadiens s'intéressaient au hockey sur glace.
So it was a wonderful education.
Donc ça a été une excellente éducation pour moi.
Et maintenant on voit d'où vient vos personnages sériels, d'où viennent vos personnages sériels et d'où vient votre information technologique, scientifique, parce que vous l'utilisez aussi dans vos romans.
Well, it comes from just basically a fascination with science.
En gros, ça vient surtout d'une certaine fascination pour la science.
I'm obviously not a scientist. I don't have any formal training in science.
De toute évidence, je ne suis pas un scientifique. Je n'ai pas de formation formelle en termes de science.
But I have a layman's interest in science as almost a philosophical interest in the idea of how we perceive the universe and how we relate to the universe as it's understood through modern physics and modern science.
Mais j'ai un intérêt de profane pour la science, un intérêt que je pourrais presque qualifier de philosophique, la façon dont nous percevons l'univers, la relation que nous avons avec lui.
About technology, all I know really is what I steal from other people's books.
Concernant la technologie, tout ce que je sais, pour être honnête, c'est finalement ce que je pique dans les bouquins des autres.
Alors, quand vous recommencez à écrire des nouvelles en 85, et très peu de temps après, 86, il y a le premier roman qui a été traduit en France sous le titre La cabane de l'aiguilleur, et qui est un roman qu'on peut qualifier de roman sur l'altérité, qui est presque un roman de littérature générale. La donnée relevant de l'imaginaire est donnée assez minime. Et quelle est l'inspiration du livre? Est-ce que vous vous êtes intéressé, en un mot, est-ce que vous êtes intéressé à d'autres auteurs que des auteurs de science-fiction?
Oh, yeah, at the time I was reading an awful lot of American writers from the Depression era.
À l'époque je lisais énormément d'auteurs de l'époque de la Grande Crise.
I can't remember them all now, but I remember being really obsessed with the work of a woman named Carson McCullers.
Je me rappelle pas tous, mais je me souviens qu'à l'époque j'étais obsédé en particulier par le travail d'une auteure qui s'appelait Carson McCullers.
She was in what they call now, I think, the Southern Gothic tradition. It was mainstream. There was no fantasy element in her work, but nevertheless, there was a sort of an aura of strangeness hovering over it.
Je pense qu'aujourd'hui, on la classe plutôt dans la tradition du gothique du Sud, Southern Gothic. C'était pas ouvertement de l'imaginaire, mais il y avait cette espèce d'aura d'étrangeté qui planait sur les récits.
And I think you're right about the sense of otherness or alienation. You can draw your own conclusions about why that interested me, but in fact, the social circle that I had at the time was full of people who were fascinating and interesting people, but who had many personality problems or were marginally employable, who were effectively outsiders for one reason or another. And that whole subject interested me too, and I think that played into the novel in a certain way.
Donc effectivement, on peut arguer que le livre parle de l'altérité, également de l'aliénation. Je pense que il est possible de tirer ses propres conclusions quant à ce qui m'intéressait. Je peux vous mentionner que mon cercle social à l'époque était constitué de gens extrêmement intéressants et fascinants, mais qui étaient aussi des gens qui avaient pas mal de problèmes de personnalité, qui étaient difficilement employables, qui étaient souvent des gens très en marge pour un tas de raisons et qui étaient intéressants, donc ça peut se retrouver un peu.
Alors dès le deuxième roman, il y a un saut intéressant, parce que le deuxième roman a été traduit très récemment en France. Il s'appelle Ange Mémoire et c'est un roman qu'on pourrait qualifier de cyberpunk.
I think when I wrote my first novel, I was a little intimidated by the science fiction content, to tell you the truth.
Pour être très honnête avec vous, je pense que quand j'ai écrit mon premier roman, j'étais un petit peu intimidé par le contenu science-fictif.
I was more comfortable with the human story than with the element of the fantastic.
Je me sentais plus à l'aise avec les éléments humains des histoires qu'avec les éléments fantastiques.
When I wrote my second novel, Memory Wire, I wanted to... Because I was sort of afraid, this is difficult to explain.
C'est un petit peu difficile à expliquer. Quand j'ai écrit ce second roman, donc Ange Mémoire, j'avais une sorte de crainte, mais c'est un peu dur à dire.
I wanted to grasp the idea of science fiction.
Je voulais appréhender l'idée de science-fiction.
I'm not sure it was a particularly successful novel artistically, but it was an attempt to dive into the deep water of science fiction.
Je ne sais pas si c'est un véritable succès sur le plan artistique, mais c'était une tentative de plonger dans les eaux profondes de la SF.
Et quelles eaux profondes, alors ?
Oh, well, it deals directly with technology, the interaction of technology with human personality.
Ce roman déjà traite de technologie, mais aussi des interactions de cette technologie avec les éléments, la personnalité humaine.
In retrospect, it seems to me almost too deliberately a cyberpunk novel.
Rétrospectivement, j'ai l'impression que c'est limite un roman trop délibérément cyberpunk.
It was, in a way, it was more imitative than original.
En un sens, c'était un peu plus imitatif que vraiment original.
Il y a quand même quelque chose de très original dans Ange Mémoire, qu'on va retrouver après dans plusieurs de vos romans. C'est que ce n'est pas un livre qui se déroule uniquement aux États-Unis et que le monde pour vous est un monde qui est un monde vaste.
I think that science fiction is an intrinsically big literature. We try to write about big ideas, and it seems to me unsuitably provincial simply to address stories set in the United States or North America. Obviously, there's a temptation to do that. It's what I'm familiar with, and I was not very familiar with the world outside North America, but I wanted to at least acknowledge its existence.
La science-fiction, en fait, est une littérature intrinsèquement vaste, qui traite d'idées qui sont vastes. Donc ça me semblait déraisonnablement provincial de parler d'histoires qui se situaient en Amérique du Nord ou aux États-Unis. Alors évidemment, il y a la tentation de faire ça, parce que c'est ce que je connais bien, c'est ce qui m'est familier. Et je ne connaissais pas bien le monde en dehors de l'Amérique du Nord. Mais bon, je voulais au moins, au minimum, reconnaître que ça existe.
Non, est-ce que c'est pour ça que vous avez nommé la ville du Nouveau Monde d'Axis Port Magellan?
Well, yes. Sure.
Oui, tout à fait.
Alors, on ne va pas passer les romans en revue, mais j'ai dit tout à l'heure que vous étiez confronté à tous les grands thèmes de la science-fiction. Et dans Le vaisseau des voyageurs, vous êtes confronté quand même à un des thèmes, peut-être le thème central de la science-fiction, qui est le contact avec les extraterrestres.
Yes, I think these are, well, these are not stale themes, it seems to me, that these are, this is the material we've been dealing with for decades in science fiction, so in that sense, these are old themes, but they're also, there's also much that, so much that remains to be said about our interaction with aliens, about the concept of time travel, about the concept of space travel, about a relationship with the universe. These are almost inexhaustible themes. I didn't think of myself as reviving them so much as turning them to my own purposes, as every writer does.
Je pense que ces thèmes finalement n'ont rien de vieux ou ils ne sentent absolument pas le renfermer. C'est un matériau sur lequel en science-fiction on travaille depuis des décennies. Donc on pourrait dire en un sens qu'ils sont vieux, mais aussi il reste énormément de choses à dire dessus, sur notre interaction avec des extraterrestres, sur le voyage dans le temps, sur le voyage dans l'espace, et sur notre relation à l'univers. En un sens, finalement, ces thèmes sont quasiment inépuisables. Donc j'ai pas vraiment l'impression de les faire revivre plutôt que de les tourner à mes propres... de les faire en sorte qu'ils servent mes propres fins.
I said in an earlier panel that for me, time travel is about our hopes, our fears... and our memories, and these are inexhaustible themes for a writer.
Je crois avoir dit dans un autre café littéraire que pour moi le voyage dans le temps parle de nos espoirs, de nos peurs et de nos souvenirs, et ces thèmes-là sont tout simplement inépuisables pour un écrivain.
Justement, on va parler du voyage dans le temps parce que le dernier roman qui vient de paraître en France, à travers le temps, c'est un roman sur le voyage dans le temps. Et plus tard dans votre carrière, vous en faites un deuxième qui n'a aucun rapport avec le premier, qui est les Chronolithes. Vous avez pris le voyage dans le temps, si j'ose dire, dans les deux sens, dans les deux bouts.
Well, this is what makes it fun to write science fiction, is that one has these options.
C'est ça qui est amusant quand on écrit la science-fiction, c'est qu'on a ces possibilités.
When I read history, if I focus on a particular period of time, I find I experience this kind of undeserved nostalgia.
Quand on lit l'histoire et qu'on se concentre sur une période en particulier, on vit une espèce de d'une sorte de nostalgie imméritée.
I was, for instance, I was reading over the last couple of years about the American movement for the abolition of slavery in the 1830s and 1840s.
Par exemple, au fil des deux dernières années, j'ai beaucoup lu sur le mouvement pour l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, donc à partir des années 1830.
And I fell a little bit in love with these people who were so motivated by conscience that they could transcend the opinions of their time about race, and they were the same people who created the feminist movement in America.
Je suis un peu tombé amoureux de ces gens qui étaient vraiment poussés par leur conscience à transcender les opinions de leur époque sur les préjugés de race, et également c'est un petit peu la même époque où est apparu quelques mouvements féministes.
They were religious people, but they were also waking up from the very dark Calvinistic religion of New England into something more open.
C'est des gens qui étaient très religieux et en même temps ils s'éveillaient un peu de la religion très calviniste de la Nouvelle-Angleterre.
And I formed this very romantic idea about these abolitionist meetings in Boston in those days, and I thought, wouldn't it be wonderful to be able to walk into one of those halls or in one of those public meetings and to speak to these people and to tell them, you're right, the verdict of history is that you're right.
Et j'ai eu cette idée un peu romantique, par exemple quand on pensait aux manifestations pour l'abolition de l'esclavage, par exemple comme à Boston, de se dire, et si on pouvait rentrer par exemple dans ces salles, rencontrer ces gens, parler à ces gens et leur dire, vous avez raison, le verdict de l'histoire est tombé et vous avez raison.
It seemed to me that if I could travel there, it would be like one of those magic moments in time.
Ça me fait penser finalement, pour moi c'est une sorte de moment magique dans l'histoire.
But at the same time you realize that no one experiences a special moment in time as special. All times are equivalent. It's hard to express this thought, but it's also something I addressed in A Bridge of Years.
En même temps, personne ne vit un moment de l'histoire en se disant, en considérant ces moments comme particuliers. Tous les moments du temps sont équivalents. C'est un petit peu un problème, une question dont j'ai traité dans À travers temps.
We romanticize the past, but no one experiences history that way.
On plaque une image romantique sur le passé, mais personne ne le vit au moment présent de cette façon.
One of the things that interested me in A Bridge of Years was this contrast between Tom Winter's romanticization of the past and his experience of it as simply a succession of days.
Une des choses qui m'intéressait en À travers temps, c'est le contraste entre la vision romantique de Tom Winters, la vision du passé qu'il a qui est romantique, et le fait qu'il le vive comme une simple succession de jours.
Et les chronolithes alors? Le voyage qui est un voyage dans le temps à rebours, d'une certaine manière.
The chronolith tells the story of monuments that begin to appear at various places on the earth.
Les chronolithes, oui, ça parle de monuments donc qui apparaissent un peu partout sur la Terre.
These monoliths are obelisks. They commemorate military victories that haven't happened yet.
Et en fait, ce sont des gros monolithes ou des obélisques qui commémorent des victoires militaires qui n'ont pas encore eu lieu.
In a sense, it's an attempt on the part of a future conqueror to make his victories inevitable by announcing them in advance.
En fait, c'est une tentative de la part d'un conquérant du futur de rendre ses victoires inévitables en les annonçant à l'avance.
So the book is in a way a meditation about how our expectations shape the future. That when we talk about the future in terms of human culture, it's something that emerges out of the human mind and out of our collective expectations of the future. It's something we build, even though we don't build it in a coherent way. It's something that emerges out of our collective hopes and fears about the future.
Donc en fait, en un sens, ce livre est une sorte de méditation sur nos attentes et la façon dont elles façonnent le futur. Ce futur émerge finalement de l'esprit humain et de la culture humaine d'une façon collective, à partir de nos attentes collectives. La façon dont nous le construisons d'une façon cohérente, à partir de nos attentes. Finalement, l'avenir découle en un sens de nos espoirs et de nos peurs et de nos désirs collectifs.
I'm sorry, this sounds terribly abstract and philosophical, but actually these are stories about the human experience of these things. I don't want to create the impression that these are stories about concepts. They're stories about people.
Ça doit vous paraître absolument terriblement abstrait et philosophique, mais je veux vous dire que ces histoires-là, en fait, ça parle de la façon dont les gens le vivent. Ce sont des histoires à propos de gens qui sont confrontés à ces concepts.
Justement, les gens sont confrontés... Dans les chronolithes, il n'y a plus d'incertitude sur l'avenir. On leur a enlevé cette incertitude sur l'avenir, puisque ce tyran va apparaître. Et dans Spin, par exemple, on enlève aussi l'espace, les étoiles, et on enferme la Terre et ce qui l'entoure dans une sphère de Dyson. C'est un moteur d'histoire, d'enlever quelque chose à l'humanité.
That's an interesting question.
Question intéressante.
I've always liked stories that focus that force people into a confrontation with their limitations.
J'ai toujours apprécié les histoires qui forcent les gens à se confronter à leurs limites.
I like stories in which people are I'm sorry, I haven't thought about it in exactly these terms.
Je suis navré, j'y réfléchis, mais je n'ai pas exactement pensé en ces termes.
But yes, I do like the sense of enclosure, and that's what I was going for in Spin.
Oui, j'apprécie la sensation d'enfermement, et c'est ce que je visais avec Spin.
The sense that there are limits, and we have to confront those limits, and in confronting them, we have to confront ourselves.
Le fait qu'il y a des limites, que nous devons nous y frotter, et pour faire ça, nous sommes forcés de nous frotter à nous-mêmes.
cette sensation d'enfermement dont parle Jean-Claude, vous l'avez utilisée aussi, mais d'une autre manière avec Spin. Où la Terre est protégée d'une catastrophe.
Well, yeah, it's and it wasn't just an enclosure in Spin. It was also a way of, you know, what happens in Spin is that the Earth is enclosed in a kind of temporal barrier, so that time passes more quickly outside than it does on Earth.
Oui, en plus de cette sensation d'enfermement, ce qui se passe dans Spin, c'est que la Terre est enfermée dans une sorte de barrière qui fait que le temps s'écoule beaucoup plus vite à l'extérieur qu'à l'intérieur de la planète.
There are so many things that seem fixed and stable to us simply because we have a very finite span of life.
Il y a beaucoup de choses qui nous semblent fixées et stables simplement parce que nous avons une vie qui est finalement très brève.
But if you could somehow slow down human perception, we would be able to see the continents moving on the surface of the earth, we would be able to see mountains rising and falling.
Mais si on pouvait ralentir la perception humaine, on pourrait voir les continents dériver sur sur la planète, on pourrait voir les montagnes s'élever et s'éroder.
We would have to deal with the fact that the earth changes extraordinarily over time, that the sun itself is not a permanent stable object but ages and dies and is mortal.
Nous serions forcés d'affronter le fait que la Terre change énormément au cours du temps, que le Soleil n'est pas un objet permanent, mais que c'est aussi une sorte d'être vivant qui va connaître une mort un jour.
So by putting the Earth in this bubble of time, I was able to confront ordinary people with what seemed to us abstractions, but become very real concerns for them, in part because it appears as if within a human lifetime, the Earth is going to be consumed within the heliosphere of the expanding sun.
En plaçant la Terre dans cette bulle, ça m'a permis de forcer des gens ordinaires à se confronter à ces idées qui pour moi nous semblent juste des distractions, mais qui pour eux sont des inquiétudes très réelles. Le fait que le danger très, très véritable, que la Terre risque d'être complètement consumée de leur vivant par l'héliosphère du Soleil aux mesures qu'elle s'étendra, à mesure que le Soleil vieillira.
En fait, vous avez entendu, ce sont tous des éléments très, très philosophiques, métaphysiques et technologiques que développe là M. Wilson. Mais en même temps, ces bouquins ne sont jamais seulement métaphysiques, philosophiques et technologiques. En fait, ils voient toutes ces évolutions à l'échelle du cosmos à travers les yeux de quelques personnages, sous des enfants parfois, comme dans Spin, et puis qui grandissent, des gens parfois un peu paumés. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il passe toujours du cosmogonique à l'intime. Comment vous faites ?
Well, there is a phrase I sometimes use when people ask me this question. I say,
il y a une phrase que j'utilise parfois quand on me pose cette question.
The apocalypse isn't the apocalypse if it's experienced only by Captain Future.
L'apocalypse, ce n'est pas l'apocalypse s'il n'y a que le capitaine Flamme pour la voir.
What really interests me is there's an old precept in writing science fiction that if you have an idea, you ask who does it hurt.
Il y a un vieux précepte en science-fiction qui dit si vous avez une idée, posez-vous la question à qui elle fait du mal.
So I want to ask that question, and I also want to experience these large ideas in terms of the texture, the touch, the taste, the smell of them.
En fait, je voulais poser ces grandes idées en termes de la texture, le goût, l'odeur qu'elles ont.
What I try to do is not simply to propose an idea, but to imaginatively inhabit an idea.
Je ne voulais pas me limiter à proposer une idée, mais m'efforcer de l'habiter de manière imaginative.
Alors, il y a un roman dans lequel vous vous êtes amusé à casser de manière tout à fait furieuse. Un des clichés de la science-fiction, c'est Bios. Le cliché de la conquête d'une planète par des équipes de scientifiques principalement. Et cette planète, elle est mortelle, létale.
Yeah, I'm not the first science fiction writer to propose a lethal extraterrestrial world.
Je ne suis pas le premier auteur de science-fiction à proposer un monde extraterrestre qui soit fatal et mortel.
But I think we do have a tradition of being making easy assumptions about what it would be like to actually enter a differently evolved biosphere.
Mais je pense qu'on a quand même un peu une tradition en science-fiction quand même. On part d'un présupposé un peu facile concernant la conquête d'autres planètes et le fait que une biosphère qui aurait évolué différemment de la nôtre ne nous soit pas forcément très étrangère.
There's the cliché from the old science fiction movies where the spaceship lands on the planet and to determine whether it's habitable, they open the door and take a whiff of the air.
Il y a un vieux cliché dans les vieux films de science-fiction, c'est-à-dire vous avez le vaisseau qui atterrit sur la planète et pour vérifier si l'air est respirable, ils ouvrent la porte et puis ils hument l'air.
In some ways, I think it's the dead planets of the universe, the planets like Mars, that actually are more hospitable because there's no biosphere for us to endanger or to endanger us.
Mais je pense que finalement, ce sont les planètes mortes, les planètes comme Mars, etc., qui sont limite plus hospitalières pour nous, parce qu'il n'y a pas de biosphère qui risque de nous nuire, ni à laquelle nous risquerions de nuire.
One of the things living creatures do is eat one another, inevitably.
Une des choses que font les créatures vivantes, c'est se manger mutuellement.
And I think a planet with an actual active living biosphere would be a very, very difficult thing for humanity to approach.
Et je pense qu'une planète avec une véritable biosphère vivante, donc qui existerait, ce serait quelque chose de très difficile, très difficile d'approche pour nous en tant qu'humanité.
Alors, on va l'avant-dernière question, puisque le temps passe, c'est sur un des derniers romans, qui est Blind Lake. Alors là, on retrouve le thème de l'extraterrestre, mais aussi traité de manière très originale, puisque on a des humains qui observent des extraterrestres à distance, mais qui, d'une certaine manière, sont aussi observés.
Yeah, that's true. The idea, as it occurred to me when I wrote that book, was that if we had a kind of super telescope that would be able to image not just other stars, but the planets surrounding other stars, not just the planets, but the surface of those planets, not just the surface of the planets, but the daily life of whatever creatures might be going about their business on those planets.
Oui, c'est vrai. L'idée que j'ai eue un peu avec ce roman, c'est je me suis dit, et si nous avions un super télescope qui nous permettrait d'avoir des images non pas des étoiles, pas seulement des étoiles, mais aussi des planètes, et puis pas seulement des planètes, mais aussi de leur surface, et pas seulement de leur surface, mais surtout d'assister à la vie quotidienne des créatures qui les habitent.
So in Blind Lake, we're looking at a world with an alien culture, but we have no obvious way of communicating with them, and we have no way of understanding their symbol system.
Donc dans Blind Lake, on a une civilisation extraterrestre, mais nous n'avons pas de manière évidente de communiquer avec eux, ni de comprendre comment ils fonctionnent.
The question becomes how comprehensible is a culture if you can't access its symbols.
Et la question c'était quel degré de compréhension peut-on avoir d'une culture si l'on n'en a pas accès aux symboles qu'il utilise.
And it suggests the inverse question, how comprehensible would our culture be without the structure of language that we share.
Et ça pose la question inverse, à quel point notre propre culture serait-elle compréhensible si l'on n'avait pas le langage que nous utilisons pour communiquer?
Not just language either, but our common neurology, our common human way of looking at things.
Pas seulement le langage, mais aussi les structures neurologiques que nous partageons, qui nous permettent de considérer le monde.
It struck me as a fascinating question to address. It's really asking how comprehensible is culture? How arbitrary is our understanding of the world? How, when we look at the world, how much of what we see is real and how much is a construction that we share in common?
Je pensais que cette question, je la trouvais absolument fascinante à traiter. Comment, à quel point sommes-nous compréhensibles? À quel point plaquons-nous des choses arbitraires sur le monde qui nous entoure? Qu'est-ce qui est réel? Et à quel point construisons-nous le monde qui nous entoure à partir des structures que nous partageons tous?
And it has a personal meaning too, because one of the characters in the book is a child with autism.
Et cela prend un tour personnel également, puisque l'un des personnages du livre est un enfant frappé d'autisme.
And the same question arises that we confront with the alien culture is how easy is it to understand humanity if you have a different way of perceiving people socially, if you have difficulty understanding people's social interactions and social cues.
Et la même question se pose donc avec cette culture extraterrestre. À quel point pouvons-nous comprendre l'humanité ? À quel point peut-on comprendre l'humanité si l'on le perçoit différemment, si l'on perçoit différemment les conventions sociales que les gens utilisent entre eux ?
One of my own, I have two children, two boys, and one of them was diagnosed with Asperger's syndrome.
J'ai moi-même deux enfants, deux garçons, et l'un d'eux a frappé du syndrome d'Asperger.
So that's why the question of communication, I think, looms so large in that particular novel.
Je pense que c'est la question, c'est la raison pour laquelle la question de la communication plane de façon si vaste sur ce livre.
En fait, avec le soleil qui va exploser bientôt, les extraterrestres qui vont peut-être nous envahir, notre futur qui n'est plus sûr, enfin qui est sûr plutôt et qui va nous agresser aussi, est-ce qu'on va s'en sortir ?
Oh.
Will we make it out of all this?
Well, I mean, as dire as all this sounds, I do have a great confidence in human ingenuity.
Aussi sinistre que tout cela paraisse, je dois dire que j'ai énormément de confiance envers l'ingéniosité humaine.
As a species, we face, especially at this moment in time, enormous dangers. The obvious ones of global warming and population and the sustainability of this kind of civilization we've built.
En tant qu'espèce, c'est vrai que nous sommes à un moment de notre histoire où nous affrontons beaucoup de vastes dangers, par exemple le réchauffement global, les questions de population, la question de savoir si la civilisation, les civilisations que nous utilisons et avec notre modèle de civilisation peut être véritablement durable.
I regret to say I have no solutions to these problems.
Je regrette d'avoir à dire que je n'ai pas de solution à ces problèmes.
But I do have a certain confidence in human ingenuity, and I think the one truth we learn from science fiction is that the future is never quite what we expect.
Mais je dois répéter que j'ai une certaine confiance envers l'ingéniosité humaine, et je pense qu'une des vérités que nous retirons de la science-fiction, c'est que l'avenir ne ressemble jamais vraiment à ce à quoi nous nous attendons.
So I feel we're entitled to a certain guarded optimism.
Donc je pense que nous avons le droit à un certain optimisme prudent.
Alors pour terminer, je voudrais simplement dire deux choses. D'abord, remercier Robert Charles Wilson de s'être prêté à cet interrogatoire. Jean-Claude Ventreuillen de m'avoir aidé. Sylvain d'avoir lu ce texte qui est, à mon avis, très représentatif de l'art de Robert Charles Wilson. Et je voudrais vous faire une confidence. J'ai interviewé l'éditeur français de Robert Charles Wilson, qui est Gilles Dumay. Et Gilles Dumay m'a dit que le meilleur de Robert Charles Wilson était à venir l'an prochain. Un roman qui s'appelle Julianne. Alors je ne sais pas comment il sera traduit. Qu'est-ce que ça va être ?
Well, in contrast to all these dire expectations, Julian Comstock is set in a post-collapse 22nd century. The United States has become a backward-looking theocracy. The rest of the world is in similar straits.
Bien, en comparaison avec toutes ces attentes, ces craintes très sombres sur l'avenir, ce roman se place dans un 22e siècle après une forme d'effondrement mondial, notamment les USA sont devenus une théocratie arriérée, et le reste du monde se situe dans un état un peu semblable.
So basically what I wanted to do is make all the worst possible assumptions about how badly the future can go.
En gros, je voulais concrétiser approximativement toutes les pires attentes qu'on peut avoir sur l'avenir.
And then I asked myself, where can I find the humor in this?
Et ensuite, je me suis dit, où est-ce que je peux trouver de l'humour là-dedans?
So it's in a sense it's the first book I've written in which reviewers said it made them laugh out loud.
En un sens, c'est le premier livre que j'ai écrit et les critiques m'ont dit, enfin, ont dit que ça les a fait rire à haute voix.
It's I don't have the time to summarize it, but it's essentially about a young man living in an oppressive theocratic United States who's the nephew of the president who was thrust into a position of power he doesn't want.
En fait, pour le, on n'a pas le temps d'en parler, mais pour le résumer rapidement, c'est l'histoire d'un jeune homme qui vit dans une théocratie américaine qui se base beaucoup sur l'oppression. En fait, ce jeune homme, c'est le neveu du président qui se retrouve dans une situation de pouvoir dont il ne veut pas.
When his ambition is really not to overthrow the theocracy, but to make a musical motion picture about the life of Charles Darwin.
Et son ambition, c'est pas du tout de renverser le gouvernement, mais c'est de faire une comédie musicale sur la vie de Charles Darwin.
Eh bien, on attend ça avec beaucoup d'impatience.
Merci aussi à Lionel Davou pour avoir
traduit. Excuse-moi, Lionel, oui, bien sûr. Voilà.